Alors, bon sabbat à tous. Et durant le temps du sermon aujourd'hui, nous regarderons une parabole. Nous prendrons le temps de regarder des exemples que cette parabole illustre. Et par la suite, nous allons regarder aussi comment est-ce que cette parabole-là s'applique au merveilleux plan de Dieu. Et comment ou qui est Dieu? De quelle façon il travaille? De quelle façon il utilise ce plan-là pour amener une famille, pour créer une famille. Et le titre du sermon est tout simplement « Un Dieu de miséricorde et juste en tout temps, en tout point. » Un Dieu de miséricorde et juste en tout point. Donc, reportons-nous à Matthieu chapitre 13. C'est la parabole que nous allons utiliser aujourd'hui, Matthieu chapitre 13. Juste une des nombreuses paraboles du 13e chapitre de Matthieu et qui se trouve entre les versets 4 et 23. Donc, on va se promener dans le chapitre 13, entre les versets 4 et 23. Et nous allons revenir à ce chapitre plusieurs fois au cours du sermon. Donc, si vous voulez mettre un marqueur dans votre Bible pour pouvoir vous y référer plus rapidement, je vous le suggère. Je vais mettre le mien juste ici pour maintenant. Comme ça, je vais être capable de m'y référer rapidement. Mais nous allons donc revenir ici plusieurs fois au cours du sermon. Et donc, cette parabole, c'est évidemment le Christ qui parle. Et nous savons la raison pour laquelle il parle en parabole. Et si ce n'est pas clair dans notre esprit, nous allons regarder le pourquoi immédiatement lorsque nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Parce qu'on nous devons comprendre pourquoi. Et le principe aussi qui est à l'arrière de ces paraboles-là. Regardons-le tout de suite pour s'assurer que nous comprenons la raison des paraboles. Nous sommes dans Matthieu 13, et donc reportez-vous ici au verset 10. Parce que le Christ explique. Donc le verset 10 nous dit, « Les disciples s'approchèrent et dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Et le verset 11, Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître le mystère du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné à eux. » Donc, pourquoi leurs yeux, les yeux des disciples, et pourquoi nos yeux sont ouverts? Parce que Dieu nous a donné le principe de pouvoir les connaître. Monsieur Célestin a juste mentionné Jean 6, 44. Gardez votre place dans Matthieu ici, mais reportez-vous à Jean 6, verset 44. Et nous lirons le verset ici, parce que c'est tellement important que l'on puisse comprendre cette chose-là, qu'on puisse vraiment assimiler le pourquoi, la raison à l'arrière de cette utilisation des paraboles par le Christ. Jean 6, verset 44, où le Christ dit, il est écrit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc, personne ne peut venir au Christ, personne ne peut comprendre les Écritures si Dieu ne l'appelle pas, si Dieu ne rouvre pas l'interrupteur, si Dieu n'allume pas la lumière au deuxième, comme on dit des fois au Québec. Donc, c'est Dieu qui nous permet de faire ça. Si Dieu ne les a pas appelés et que le Saint-Esprit ne travaillait pas avec les disciples ici dans Matthieu 13, si vous voulez revenir ici, Matthieu 13. Donc, si le Saint-Esprit de Dieu, si Dieu ne les avait pas appelés, si Christ ne travaillait pas avec eux à ce moment-là et que le Saint-Esprit n'était pas présent avec eux, ils ne pourraient absolument pas comprendre les paraboles qui ont été données par le Christ. Et encore une fois, le Saint-Esprit travaillait avec eux à ce moment-là. Le Saint-Esprit n'était pas en eux. Le Saint-Esprit ne va venir en eux que lors de la Pentecôte de l'an 31. Et ici, probablement, c'est en 28 que nous sommes, donc, ou en 29, donc 2 ans plus tard. Mais le Christ travaillait par son Esprit Saint en eux, donc la lumière est allumée, il leur permettait de comprendre ces choses-là. Et c'est exactement pourquoi ils sont capables de comprendre. Regardez le verset 13 ici, de Matthieu 13. Matthieu 13, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, le Christ répond. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Si Dieu ne nous ouvre pas l'esprit, nous ne verrons rien. Ce n'est absolument pas nous qui prenons la décision un jour de dire « je vais comprendre la Bible ». Ça n'a rien à voir avec nous. C'est Dieu qui rouvre l'esprit pour qu'on puisse comprendre. Combien de fois est-ce que j'ai fait des visites où j'avais des gens qui étaient capables de citer la Bible beaucoup plus que M. Weston dans le temps avec qui je faisais des visites, ou même moi-même. Mais ils ne sont pas capables de mettre un point en arrière de l'autre. Ils ne sont pas capables de connecter les points. Ils ne sont pas capables de voir ce que la Bible dit. Le verset 14 de Matthieu 13 nous dit quoi? « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. » Donc, ils ne peuvent pas se convertir présentement. Et que je ne les guérisse. Ils ne peuvent comprendre. Et cette prophétie vient d'Ésaïe. En fait, elle vient d'Ésaïe 6, versets 9 et 10. Et reportons-nous justement à Ésaïe 6. Gardez votre place ici dans Matthieu. On revient. Mais dans Ésaïe chapitre 6, et nous allons prendre le verset qui ont été cités dans Matthieu 13. Mais regardez le contexte qui est mentionné ici. À la fin du verset 8, et nous lirons versets 9 et 10 jusqu'au verset 13. Donc, regardez ici qu'est-ce qui est écrit. Ésaïe 6 et le verset 8. Et si j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? » Et Moïse répond, « Me voici, envoie-moi » à la fin du verset 8. Et regardez le verset 9. Alors, il dit, « Va. » Et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, qu'il n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et regardez si on continue ici au verset 11 à 13, parce que les versets 9 et 10, c'est exactement ce qu'on a vu dans Matthieu 13. Mais regardez l'explication qui vient par la suite au verset 11 ici de Ésaïe 6. Et dit, « Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? » Et il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de personnes dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. » Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Donc, il y a une conséquence, il y a une leçon qui doit être apprise. Et le verset 13, « Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais le térébinthe et le chêne conservent leur tronc lorsqu'ils sont abattus. » Et une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Et donc, la leçon va être apprise. Mais le Dieu que l'on sert est un Dieu de miséricorde et juste en tout point. Et il va faire revenir cette nation. Cette nation renaîtra lorsque ce sera le temps pour eux de comprendre ces choses-là. Mais pour l'instant, ça ne leur est pas donné. Retournons maintenant à Matthieu 13. Matthieu 13, regardez ce qui est écrit ici au verset 12. Matthieu 13 et le verset 12. Il dit, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ceux qui refusent de voir, d'entendre, vont tout perdre. La leçon va être grande. Ils vont même perdre la vie. Et certains vont même perdre la vie éternelle. Et ceux qui veulent accepter de voir, d'entendre, vont hériter la vie éternelle. Il y a des conséquences, il y a un prix, mais il y a aussi une extraordinaire récompense à la fin, dépendant de quel côté on veut être, de quel côté on fait le choix. Donc, les gens qui entendent les paraboles au temps de Christ n'ont pas compris. Si Dieu ne leur a pas permis de comprendre. Maintenant, regardez le verset 16 de Matthieu 13. Matthieu 13, versets 16 et 17. Le Christ continue ici l'explication vers les disciples. Il dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous dis la vérité, beaucoup de prophètes et de justes, des gens de l'Ancien Testament, des gens qui suivaient Dieu ou qui avaient voulu observer les lois de Dieu, n'ont probablement pas tous compris ces choses-là. Donc, des prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Donc, nous devons être heureux. C'est une bénédiction absolument extraordinaire de voir de nos yeux. Et par le fait même que ce qui est extraordinaire par les écrits qui ont été faits, c'est que nous, aujourd'hui, on a la possibilité aussi de comprendre ces prophéties ou ces paraboles. On est capable d'avoir ces explications, de mettre ces choses-là en pratique. Encore une fois, si Dieu nous ouvre l'esprit. Donc, nous devons garder cela à l'esprit. On a ce principe-là que Dieu nous permet de comprendre ces choses-là aujourd'hui. Mais encore une fois, ce n'est pas donné à tous. Ce n'est pas tout le monde qui a ça, parce qu'encore une fois, les paraboles ne sont pas pleinement ou sont encore actives. Donc, nous avons le pourquoi des paraboles ici qui a été expliqué. Mais maintenant, revenons à ce qu'est cette parabole. Qu'est-ce que la parabole nous dit? Revenons maintenant à Matthieu 13 et le verset 4. Entrons directement dans qu'est-ce que la parabole nous dit. Un semeur est sorti pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ensuite, verset 5, une autre partie tomba parmi les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'il ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha à faute de racines. Verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Verset 8, un grain 100, un autre 60 et un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, on voit ici qu'il y a quatre situations, quatre groupes, quatre circonstances différentes, n'est-ce pas? Le long du chemin. La deuxième, les pierres. La troisième, les épines. Et la quatrième, la bonne terre. Donc, si vous voulez prendre juste ça en note, la première, le long du chemin. La deuxième, les pierres. La troisième, les épines. Et la quatrième, la bonne terre. Nous allons nous y référer dans quelques minutes. Et maintenant, mettons quelque chose au clair. Parce qu'encore une fois, des fois, il y a d'autres personnes qui arrivent avec d'autres choses. Il faut que ça soit clair, limpide. De quoi on parle ici? Que représente la semence? La semence ici n'est pas le Saint-Esprit. La semence ici n'est pas le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile, c'est la prédication, c'est le fait d'avoir la Bible nous être révélée. Et le Christ nous l'indique clairement. Il y a une parabole, la même parabole est donnée dans un autre Évangile, donc gardez votre place ici dans Matthieu 13. Faisons juste de regarder l'Évangile parallèle de cette parabole, dans Luc chapitre 8. Regardez ce que Luc chapitre 8 et le verset 11 nous dit. C'est clairement identifié qu'est-ce que la semence ou que représente la semence. Luc 8 et le verset 11. Le Christ nous dit ici dans ce récit parallèle, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. On ne parle pas du Saint-Esprit ici. On parle de la parole de Dieu. Soit par un exemple, ou soit par une prédication, par la lecture, la vue de quelque chose. Donc, en d'autres termes, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle, peu importe quel aspect de l'Évangile on vient en contact avec. Et donc, si vous revenez à Matthieu 13 et le verset 19 nous dit quoi? À peu près la même chose que dans Luc. Mais regardez, c'est dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Donc, ne la comprend pas, l'esprit ne lui est pas ouvert, Dieu ne l'a pas appelé. C'est marqué, le malin vient et enlève ce qu'il a semé dans son cœur. Donc, le Saint-Esprit n'est pas en cause ici. Et un autre exemple encore très clair de ça, c'est si vous reportez dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Le Christ nous dit quelque chose d'autre ici que plusieurs ne veulent pas admettre et qui est tout simple. Mais dans Actes 5, verset 32, Actes 5, verset 32, il est écrit, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. » Donc, tous les gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais qui n'obéissent pas à Dieu, sont faux. Ce n'est pas vrai. Dieu ne donne pas son Esprit Saint à quiconque ne lui obéit pas. Donc, peu importe qui est dehors, qui décide d'enseigner la Bible ou qui décide de faire quelque chose, entre autres, s'il n'observe pas le sabbat, qui est le quatrième commandement, ils n'ont pas le Saint-Esprit. S'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils enseignent des faussetés. Ils ne sont pas l'Église de Dieu. On doit obéir. C'est pourquoi, dans tous les sermons de l'Église, on dit tout le temps la même chose. Nous devons obéir à la loi. Et si on obéit à la loi, on va pouvoir devenir une unité. L'unité provient par l'obéissance. C'est un sermon que j'ai donné il n'y a pas longtemps. Donc, ici, ce n'est pas du tout, cette semence n'est pas du tout le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Donc, maintenant, regardons la première situation. Donc, le long du chemin. Qui sont ces gens-là? Nous étions dans Matthieu 13, verset 19. On va juste compléter le verset ici parce que Dieu ou Christ nous explique ce qu'est le long du chemin. Donc, ce sont des personnes qui ne comprennent pas et le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence, qui a entendu la parole le long du chemin. Et regardons donc des exemples concrets de qui pourraient être ces personnes. Reportez-vous à Genèse chapitre 6. Encore une fois, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, cette parabole s'applique partout. Même dans l'Ancien Testament. Et donc ici, dans Genèse chapitre 6, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, si on va dans versets 5 à 7, Genèse 6, versets 5 à 7, c'est marqué, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. » Et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je vais revenir à cette notion dans quelques minutes. Et l'Éternel, verset 6, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Donc ici, quelques actions à noter. Notez ici au verset 6 que toutes les pensées de leur cœur étaient uniquement vers le mal. Encore une fois, notre société s'en va vers là, mais on n'est pas à ce point-là, je crois. On a encore des bonnes personnes, entre parenthèses, dans le monde. On n'est pas rendu à ce genre de situation où toutes les pensées du cœur de tous les êtres humains sont toujours portées vers le mal. On n'est pas là encore. Mais ici, Dieu va prendre une décision. Et nous devons comprendre qu'il y a une limite que Dieu ne permettra pas de franchir. Et ici, c'est intéressant, on va expliquer, parce que au verset 6, ça dit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme ». Le mot « repentir » ici n'est pas bon. C'est une mauvaise traduction. Si vous voulez juste garder votre place ici dans Genèse 6, et juste vous rapporter à Nombre 23, on va expliquer ça rapidement, parce que c'est une question qui parfois nous parvient, et si jamais vous avez cette question, vous allez avoir la réponse. Donc, dans Nombre 23, et regardez ici ce qui est écrit au verset 19, je ne prendrai pas l'histoire, juste pour garder le point. Matthieu 23, verset 19, il nous est dit, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Donc, Dieu ne se repent pas. Il n'a jamais commis de péché. Donc, si vous revenez dans Genèse 6 ici, le terme qui devrait être utilisé, ça serait plus « l'Éternel fut peiné, regretta d'avoir fait l'homme », mais non pas « repentir ». Il fut attristé par le fait que la société ou que l'homme s'est viré vers le mal. Et nous voyons à ce moment-ci une société dont toutes les pensées sont uniquement et continuellement portées vers le mal. Et donc, il y a une limite que Dieu ne permettra pas de franchir. Et cette limite-là est absolument là. Gardez votre place ici encore une fois. Non, on peut lâcher Genèse 6, je n'y reviendrai pas, mais allez à Genèse 15. Vous allez voir cette limite que Dieu parle. Est aussi montrée ici dans Genèse 15, où est-ce que le Christ parle à Abraham. Et regardez ce qui est écrit au verset 16. Il dit à la quatrième génération, donc ta descendance, reviendront ici. Pourquoi? Regardez la fin du verset 16. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. La limite n'a pas été atteinte au temps où est-ce que Abraham a reçu cette promesse. Mais quatre générations plus tard, la limite va être atteinte. Et ça vient tout expliquer pourquoi Dieu, lorsque les nations d'Israël rentrent en Canaan, 400 ans plus tard, ont le devoir, ont l'ordre de Christ de dire, vous entrez et vous détruisez tous les peuples qui sont là. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint leur comble. Ils ont atteint l'abomination, la limite que Dieu ne franchira pas. Donc, en fait, Israël, si on veut prendre un exemple ou une image, est comme le déluge, où est-ce que Christ va détruire la nation pour enlever ces gens-là qui ont atteint leur limite. Pourquoi? Encore une fois, parce que Dieu a un plan. Il veut que tous soient sauvés. Donc, ces gens-là ne passeront pas la limite pour que Dieu puisse les ramener à la deuxième résurrection. Pour qu'ils ne dépassent pas la limite d'être au-delà de ce que Dieu peut travailler avec. Donc, si on revient dans le cas de Genèse 6, où on a nos gens qui pensent continuellement au mal, qu'est-ce qu'ils ont eu ou qu'est-ce qu'ils avaient pendant ce temps-là? Ils avaient Noé. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Reportez-vous à 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 2. Qu'est-ce qu'il nous est dit de Noé? 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, le verset 5. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il dit s'il n'a pas épargné l'ancien monde, donc l'entend de Noé, mais a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de justice. Donc Noé a enseigné, Noé a présenté la parole de Dieu, a été un exemple lors de la construction de l'arche pendant probablement 80 ou 100 ans. Il a enseigné. Il a donné la semence au monde qui était là. Mais encore une fois, Dieu n'a pas ouvert l'esprit de ces gens-là. Et leur esprit n'a pas été ouvert. Et Satan est immédiatement arrivé et a enlevé la semence de leur cœur, a enlevé la parole qu'ils avaient reçue de Noé. Ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas voulu même entendre, des fois peut-être, qu'est-ce que Noé enseignait ou qu'est-ce que Noé disait. Seulement 8 personnes ont répondu. Et c'est donc un exemple d'une semence tombée le long du chemin. Un autre exemple, prenez tous les peuples qui ont entré en contact avec Israël ou Juda lorsqu'il y avait de bons rois qui régnaient. Pourquoi est-ce que Dieu a sélectionné Israël? Pour qu'il soit un exemple pour les autres nations. Pour que les autres nations puissent voir, puissent entendre parler, puissent regarder, puissent voir que cette nation-là est tellement bénie. Cette nation-là est en paix. Cette nation-là a tous des bénéfices, a des bénédictions extraordinaires parce qu'ils ont un Dieu qui travaille avec eux. Prenez l'exemple de Sanchérib et de son armée. Reportez-vous dans 2 Rois. Dans 2 Rois 18 et 19, on voit que Sanchérib vient contre la nation, vient contre Juda. Et vous pourrez lire toute l'histoire. Ici, je ne prendrai pas le temps de tout lire. Mais Sanchérib va même défier Dieu directement. Et Ézéchias va prendre la parole à un moment donné. Et il va dire, il y a un Dieu qui va nous sauver. Il y a un Dieu qui peut intervenir. Il y a une semence qui est donnée à Sanchérib. Mais il a vu aussi l'exemple très puissant que ce roi-là avait raison et qu'il y a un Dieu dans le monde. Si vous allez dans 2 Rois, chapitre 19 ici, et nous allons juste prendre le verset 35 et 36, vous pourrez lire toute l'histoire en lisant le chapitre 18-19. Mais ici, allons à 2 Rois 19, versets 35-36. Regardez ce qui est écrit. Il dit, « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand il se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. » Imaginez Sanchérib qui se lève le lendemain matin, le roi d'Assyrie. Il sort de sa tente. Il n'entend absolument rien. C'est un silence de mort. Parce qu'il y a 185 000 soldats qui sont décédés dans la nuit. Imaginez l'exemple, imaginez l'image que ça l'a fait. Mais est-ce que Sanchérib a réagi? Est-ce que Sanchérib a changé sa voie de vie? Absolument pas. Sanchérib est retourné chez lui. Le malin est donc venu et a enlevé ce qu'il avait vu. Il a enlevé ce qu'il avait entendu de la part d'Ézéchias, de sa pensée. C'est donc une semence le long du chemin. Pensez à Nebuchadnezzar. Pensez à Cyrus. Ou dans le temps de Christ, à Pilate. Ils ont entendu parler de Dieu. Mais il n'y a eu aucune réponse de leur part. Pas vrai? Ils n'ont rien changé. Pensez à tous ceux qui lisent notre matériel. Combien de fois, ou parfois, pendant même des années, il n'y a absolument rien qui se passe. C'est une belle décoration sur la table de café. Et on a vu ça combien de fois? Il y a toujours une lettre que je me souviens qu'on a reçue au bureau, lorsque je travaillais au bureau à Mississauga, où on avait envoyé la revue du Monde de demain. L'article de première page, c'était « Est-ce que Noël est dangereux pour vos enfants? » ou quelque chose de ce style-là. Et on reçoit une lettre disant « Votre article est absolument fantastique. La page couverture est absolument belle. Il y avait une couronne de Noël. Et vos articles sont superbes, vos articles sont merveilleux. » À la fin de la lettre, ça disait « Joyeux Noël et bonne année. » Ça n'a pas rentré. Cette semence a passé par 100 pieds par-dessus la tête de cette personne-là. Aucune connaissance. Pensez à certaines personnes qui viennent aux conférences que l'on fait. Ils viennent, ils repartent, et c'est tout. On n'entend jamais parler d'eux. La semence n'a pas rentré. La semence le long du chemin. Revenons à Matthieu 13. Matthieu 13. Donc, le point numéro 2, donc, les pierres. La semence parmi les pierres, la parole de Dieu parmi les pierres. Matthieu 13, verset 20. L'explication. Qu'est-ce que cela représente? Matthieu 20 et 21 de Matthieu 13. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Qui sont ces gens-là? Quels sont des exemples de ces gens-là? Eh bien, vous pouvez penser directement à la nation d'Israël, dans l'Ancien Testament, non? Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient tout joyeux, tout en feu. Ils sautaient de joie. Enfin délivrés. Est-ce que cela a duré longtemps? Dès qu'il y a eu commencé à avoir un petit peu de faim, un petit peu de soif, la parole de Dieu a disparu. Moïse s'en va au haut de la montagne. Que se passe-t-il? On fait un autre Dieu. Ils ne sont pas du tout dans la bonne direction. Ce sont des hommes ou des femmes qui ont eu la semence dans des endroits pierreux. Et encore une fois, est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? La réponse est non. Reportez-vous à Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5, où Dieu nous rementionne les 10 commandements, rementionne les 10 commandements à la deuxième génération, la génération qui va entrer en terre promise. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici dans Deutéronome chapitre 5 et le verset 29? Il dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, pour observer mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. » Donc, ce sont des gens qui ont eu la semence, ils ont entendu parler de Dieu. Ils étaient tout heureux, tout en feu. Mais dès qu'il y a eu une tribulation, dès qu'il y a eu un moindre petit pépin, ça l'a disparu. Et de nos jours, combien de fois avons-nous vu des gens qui ont commencé à venir, tout en feu, tout heureux d'avoir découvert la vérité, de pouvoir être là, de pouvoir commencer à venir, de pouvoir observer le sabbat? Ça dure 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, 1 mois, quelques mois, et soudainement, ils disparaissent. Est-ce que nous devons être surpris? Absolument pas. Ce sont des gens qui ont reçu la semence, mais qui sont des endroits pierreux. Ils ne comprennent pas. Troisième aspect, les épines. Retournons de nouveau dans Matthieu 13. Matthieu 13 et le verset 22, cette fois-ci, qui nous donne l'explication de ceux qui sont parmi les épines, ou qui sont les épines, si on veut. Matthieu 13, verset 22, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui a entendu la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Donc, qui sont ces gens-là? Encore une fois, il y a des exemples que l'on peut prendre directement dans la Bible. On peut passer à Joas. Joas, reportez-vous à 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 24. 2 Chroniques, chapitre 24. Nous sommes dans les rois de Juda. 2 Chroniques, chapitre 24. Et vous pourrez lire à partir du chapitre 23 pour avoir toute l'histoire. Je ne prendrai pas le temps d'expliquer toute l'histoire ici à cause du temps. Mais on a donc un roi qui vient au pouvoir qui s'appelle Joas. J-O-A-S, Joas. Et il y a aussi un souverain sacrificateur qui va l'aider, qui s'appelle Jéhojada. Ce souverain sacrificateur-là va guider, va travailler avec Joas. Et vous pourrez prendre le temps de voir tout ce que Joas a fait, mais je ne prendrai pas le temps ici, je veux simplement aller au verset 15 de 2 Chroniques 24. 2 Chroniques 24 et le verset 15. Ça dit, Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jour, il est mort à 130 ans, et on l'enterre dans la ville de David. Et ensuite, verset 17. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda viennent. On a une possibilité. Ils viennent devant le roi. Alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servèrent les Astartés et les idoles. Les valeurs du monde, les pièges de ce monde. Et la colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Et le verset 19, l'Éternel envoya parmi eux des prophètes, envoie des avertissements, mais ils n'écoutèrent point les avertissements, la parole est envoyée. Et même Zacharie, le fils sacrificateur de Jéhojada, qui était revêtu de l'Esprit de Dieu, celui-ci avait l'Esprit. Et il prêchait. Et il se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Et ils vont conspirer contre lui, ils vont même faire tuer le fils de Jéhojada. Il refuse d'écouter. Et Joas refuse d'écouter. Il succombe à la séduction de son siècle. Et il enlève la semence, la parole qui a été donnée. Et de nos jours, des exemples que l'on peut voir, combien de fois avons-nous des gens qui viennent à l'Église, qui sont parmi nous, mais la pression de la famille, la pression d'observer le sabbat, etc., enlève la parole. Ce sont des gens qui sont parmi les épines. Encore une fois, combien de fois j'ai eu des appels de ce type-là? Des gens qui m'appellent, qui ont dit, « Je sais que c'est le sabbat, c'est la bonne journée. Je sais que vous observez la vérité. Je sais que vous donnez ces choses-là. Mais je ne veux pas aller contre ma famille. Mais je peux pas lâcher mon emploi. Mais je ne peux pas faire ci. Mais je ne peux pas faire ça. Et ils abandonnent. Des gens qui sont parmi les épines. Et voyez-vous, frères et sœurs, tous ces gens-là, encore une fois, n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et c'est extrêmement important qu'on comprenne ça. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous dit que tous ces gens-là vont revenir lors de la deuxième résurrection à une vie physique. Reportez-vous à Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20 et le verset 11. Ça dit, « Puis j'ai vu un grand trône blanc, Apocalypse 20, verset 11. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. » C'est biblios. Et c'est les livres de la Bible. Dieu va encore une fois ouvrir cette fois-ci leur esprit pour qu'ils comprennent la semence qui va leur être donnée. Mais imaginez les grands et les petits qui vont revenir à la vie à ce moment-là. Imaginez ces gens qui reviennent à la vie physique et Christ leur permet de se remémorer les paroles, les actions, les exemples qu'ils vont avoir vus de leur vivant avant. Imaginez Nebuchadnezzar, la tête d'or de la grande statue, qui revient à la vie et qui, pour la première fois, va réaliser qu'il y a un peu. Qu'est-ce que Daniel m'a dit? C'était lui. Je le vois de visu. Et Daniel va venir le voir, le rencontrer, il dit, « Tu viens-tu quand je t'ai dit que... » Imaginez la réception de cet homme-là. Lorsqu'il va réaliser aussi que les 7 ans qu'il a passé à manger du gazon, c'était à cause de cet homme-là. C'était à cause de cet être-là. Ils vont réaliser à ce moment-là. Imaginez les hommes et les femmes de Sodome et Gomorrhe. La dernière image qu'ils ont vue, c'est du feu qui tombe du ciel qui les dévore. Mais ils ont certainement vu aussi Lot sortir de la ville et courir comme un fou pour essayer de s'en aller, puis ils ne comprenaient pas pourquoi. Ou la famille de Lot, qui a été averti qu'il y avait quelque chose qui était pour se passer et qui ont ri de lui. Pensez-vous pas qu'ils vont réaliser ce point-là? Et c'est extraordinaire de pouvoir voir ces choses-là. Et même le Christ nous dit que ces gens-là vont revenir à la deuxième résurrection. Reportez-vous dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Et le verset 20. Où le Christ ici parle, il donne la semence, il donne la bonne nouvelle, il enseigne. Et il dit aux Juifs de son temps, à certaines villes, il dit, alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu la plupart de ses miracles, parce qu'il ne s'était pas repenti. C'était des gens de Matthieu 13, qui ne comprenaient pas. Il dit, « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Et c'est pourquoi je vous dis que le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui, au jour du jugement, le pays de Sodome, la vallée, toutes les villes qui ont été détruites par le feu, sera traitée moins rigoureusement que toi. Ta dernière chose qu'ils ont vue, les gens de Sodome, était du feu qui descendait du ciel. Et ils moururent. Lorsqu'ils vont revenir, ils vont comprendre leurs actions. Et ils vont comprendre qu'il y avait une limite qu'ils ne pouvaient pas franchir. Encore une fois, reportez-vous à Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. On a parlé tantôt qu'il y avait des limites que Dieu ne permettra pas de franchir. Et c'est exactement ce qui se passe avec Sodome et Gomorre. Dans d'autres mots, Genèse 18, verset 20. Le Christ parle avec Abraham. Il dit quoi? Il dit au verset 20, « Le cri de Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. » Mais le jugement a été que c'était le cas. La limite a été atteinte. Leur péché était énorme. Et les gens de Sodome et Gomorre vont revenir à la vie physique. Et ils vont avoir l'opportunité de comprendre ce qu'ils n'ont pas eu lors de cette opportunité ici. Ils n'ont pas eu l'opportunité de comprendre. Donc, nous avons vu les trois premières catégories, de Matthieu 13. Et les trois premières catégories de Matthieu 13 n'ont pas reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et la quatrième catégorie, ceux qui tombent dans la bonne terre, ceux-ci sont appelés. Ceux-ci vont recevoir Jean 6, 44. Dieu va leur permettre de comprendre les choses. Et ensuite, ils doivent répondre à l'appel. Et ils ont maintenant, dans cette vie, l'opportunité de connaître, de comprendre et d'accepter l'appel. Ils doivent répondre. Ils doivent changer leur vie. Ils doivent produire des fruits. Encore une fois, reportez-vous à Matthieu 13. Matthieu 13, et regardez ce qui est écrit dans la quatrième catégorie. Ceux qui tombent dans la bonne terre. Et on, encore une fois, juste prendre le verset 8 pour se remémorer la quatrième partie, Matthieu 13, verset 8. Une partie tomba dans la bonne terre, il donna du fruit. Un grain donna 100 fruits, l'autre 60 et l'autre 30. On produit tous selon nos capacités, mais on doit produire. Et maintenant, descendez au verset 23. L'explication. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, ces gens qui appartiennent à la quatrième catégorie, ce sont ceux qui vont saisir ou qui ont l'opportunité, cette fois-ci, maintenant, de répondre à l'appel. Et ils vont répondre à leur appel. Et ils doivent produire du fruit. Et ils vont se repentir. Et ils vont se faire baptiser. Et ils vont recevoir l'Esprit de Dieu à ce moment-là, le Saint-Esprit. Et ils doivent produire des fruits pour le restant de leur vie. Et aussi, ils doivent persévérer jusqu'à la fin. Mais il y a un avertissement. Mais je veux me concentrer sur nous qui, présentement, aujourd'hui, ceux depuis Adam et Ève qui ont reçu cet appel, qui ont répondu, qui ont changé, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Il y a un avertissement absolument sérieux que l'on doit prendre. Rapportez-vous à Hébreux chapitre 6. Cet avertissement ne s'applique pas à ceux qui entendent la parole mais n'ont pas compris. Encore une fois, cela ne s'applique pas aux trois premières catégories de Matthieu 13. Il s'applique juste à la quatrième. Mais Hébreux 6, verset 1 nous dit quoi? On voit ici qu'est-ce que l'on doit faire, la réponse. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. On doit songer, sans poser de nouveau les fondements de renoncement aux œuvres mortes. Les vieilles choses, les vieilles doutes, ça disparaît. de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Il y a deux baptêmes que l'on doit prendre, la troisième, on ne veut pas. Le baptême du feu, on va parler justement du baptême du feu présentement. De l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc ça, c'est ceux qui répondent. On doit avoir ces changements-là, on doit comprendre ces choses-là. Et regardez le verset 4 maintenant. Où est-ce que le Christ dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, une fois, il n'y a pas deux appels, il n'y a pas trois appels, il n'y a pas deux chances, il y a une chance. Vous êtes éclairés une fois. Qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, donc ils se sont repentis, ils ont compris les choses, ils ont été baptisés pour les bonnes raisons. Et le Christ a reconnu cette raison. Le Christ leur a donné le Saint-Esprit. Et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, ils ont compris le plan. Ils ont vu les choses. Et Paul ici dit, verset 6, « Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient de leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Donc, ici, on ne parle pas des gens des trois premières catégories de Matthieu 13. Et c'est la semence dans la bonne terre qui produit des fruits. Et ces gens-là ont une chance de pouvoir répondre. Ils ont une opportunité. Mais s'ils tombent, ils refusent à un moment donné de suivre Dieu. Il n'y a pas de revenir. On ne revient pas. Et en fait, l'apôtre Paul continue au verset 7. Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Lorsqu'une terre abreuvée, on est dans une bonne terre, par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. » Donc, on voit que c'est une terre fertile qui amène des bons fruits. Matthieu 13, la bonne terre. Et regardez le verset 8. « Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée est près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » Donc, si cette terre fertile devient rebelle, refuse de poursuivre, refuse de produire, est infertile ou produit de mauvais fruits, elle sera brûlée au feu. Et donc, encore une fois, c'est des gens qui ont été éclairés, des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont compris la parole de Dieu et les promesses à venir. S'ils refusent à un moment donné de continuer, de se repentir, ils disent à Dieu, « Je sais exactement qui tu es, mais je ne veux plus te suivre. Je refuse de faire le sabbat. Ou je refuse de faire ceci. Je refuse de me repentir de mes actions. » Il n'y a plus de retour possible. Allons dans Hébreux 10. Hébreux 10, versets 26 à 31. Le Christ, ici, enseigne aussi la même chose, mais avec d'autres mots. Hébreux 10, verset 26. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici? Il dit, « Car si nous péchons volontairement, en toute connaissance de cause, pas par faiblesse, pas parce qu'on est séduit par le péché à un moment donné. Non, on suit de manière directe. On refuse d'observer la loi de Dieu. Quand, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Parce que la personne refuse de se repentir. Une fois qu'elle a reçu la vérité, ce qui vient avec le repentir, le changement qui devrait se produire, de pouvoir tourner notre vie de côté. Lorsqu'on a reçu le baptême, lorsque nous venons de lire ce qu'on a lu dans Hébreux 6, si on rejette tout ça et on met Dieu de côté en toute connaissance de cause. Le Christ ici nous dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Et regardez le verset 27. Mais il y a une attente terrible du jugement, de l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Les trois premières catégories de Matthieu 13 ne sont pas rebelles. Dieu ne leur a pas donné de pouvoir comprendre. Ce n'est pas le moment. Mais ceux à qui Dieu va donner cette opportunité, si nous rejetons cet appel, si nous rejetons, après avoir été baptisés, la voix de Dieu, Christ nous dit au verset 27 qu'il y a l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu est absolument épouvantable. Et si vous descendez au verset 31, le Christ nous dit, il dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Parce que si vous avez rejeté Dieu, en toute connaissance de cause, il y a quelque chose d'absolument horrible qui s'en vient. Et encore une fois, on parle de gens qui sont aujourd'hui, qui ont vécu depuis Adam et Ève. Reportez-vous à Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, j'ai déjà expliqué cette parabole-là dans une étude biblique, donc je vais retourner dans les études bibliques. Ici dans Luc 16, la parabole de Lazare ou de l'homme riche et de Lazare, on voit ici un homme riche qui est vêtu de pourpre. Un homme qui a connu la vérité. Et qui menait une vie joyeuse et brillante. Cet homme connaît qu'est-ce qu'il doit faire, sait ce qu'il devrait faire. Et il ne le fait pas. Et on voit que les deux vont mourir. Un va être amené dans le sein d'Abraham. Bon, je ne vous expliquerai pas, je ne prendrai pas le temps d'expliquer parce que le temps file. Mais donc, lorsque le Christ revient, Lazare est ressuscité dans la première résurrection. Mais qu'arrive-t-il à l'homme riche? Et l'homme riche, lui, lorsqu'il revient du séjour des morts, Luc 16, verset 23, il dit, dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. Qu'est-ce qu'on vient de lire dans Hébreux 10, verset 31? Qu'il est dangereux de tomber dans les mains du Dieu vivant. Et qu'il y a un feu ardent pour ceux qui vont se rebeller contre Dieu. Et donc, cet homme riche se réveille, est en proie au tourment, et voit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et il s'écrie, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans la flamme. » Où cet homme-là se réveille-t-il? Il n'est pas dans la première résurrection. Sans ça, il serait avec Lazare et Abraham. Il n'est pas dans la seconde. Il est dans la troisième. Il est dans le feu, où il va être détruit à jamais. Et ça doit être très clair pour nous, ça. Donc, l'opportunité des gens d'aujourd'hui, des gens qui ont existé depuis Adam et Ève, ceux qui ont rejeté Dieu en toute connaissance de cause, connaissant qu'est-ce qu'ils devaient faire, et le rejetant, il y a juste une solution. C'est le feu de la géhenne qui s'en vient. Je vais apporter un bémol là-dessus dans quelques minutes. Mais je veux que ce soit très clair dans notre tête que pour ceux et celles qui ont l'opportunité aujourd'hui, ceux d'entre nous qui avons l'opportunité d'aujourd'hui, qui recevons le baptême, qui commençons à marcher dans cette voie-là, qui allons de l'avant, qui sont sincères et que Dieu donne son Saint-Esprit, qui ont les fruits, si on lâche, si on ne persiste pas jusqu'à la fin, il n'y a pas de deuxième résurrection. Il n'y aura pas de première. Il y a juste la troisième. Je veux que ça soit très clair. Et on va juste regarder ici quelques exemples de ce feu de la géhenne-là, de cette seconde mort. Encore une fois, pour que ça soit très clair dans notre esprit, allons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, Matthieu 5, prenons juste le verset 22 ici. Verset 22, j'explique pas le contexte. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, mais celui qui tuera est passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Celui qui dit à son frère Raca mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. C'est la troisième résurrection. Des gens qui devraient savoir mieux, qui connaissent le point, qui ont eu cet enseignement, qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu et qui refusent persistamment, avec consistance, et refusent de se repentir de ces actions-là, vont être détruits dans le feu de la Géhenne. Vous pourrez lire aussi le verset 30. La fin du verset 30 parle de la même chose. Reportez-vous dans Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10, le verset 28. Qu'est-ce que le Christ nous dit comme avertissement à ceux qui connaissent la vérité? Pas qu'ils ont juste reçu une parole, mais qui connaissent, qui ont accepté, qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Géhenne, le feu de la troisième résurrection. Et nous avons aussi plusieurs versets qui parlent de la seconde mort. Reportez-vous à Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, versets 14 et 15. On a vu versets 11 à 13, on parle de la deuxième résurrection ici. Mais regardez ce qui est écrit au verset 14. Il est marqué, puis le séjour des morts et la mort furent jetés dans l'étang de feu. Le feu de la Géhenne, synonyme, même chose. Et c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de la vie, fut jeté dans l'étang de feu. Question. Est-ce que les trois premières catégories de Matthieu 13, les gens qui étaient dans ces trois premières catégories-là, avaient-ils leur nom écrit dans le livre de vie? Pas du tout. Ils n'étaient même pas commencé à être inscrits dans le livre de vie. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, c'est ceux qui ont été baptisés. Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont changé, qui ont répondu à l'appel, qui ont avancé. Qui ont répondu aux critères que l'on voit dans Hébreux 6. Et les gens de la seconde résurrection devront remplir les mêmes conditions. Un Dieu de miséricorde et qui est juste en tout point. Donc, on voit ici le feu de la Géhenne, la seconde mort. Et vous pourrez aller voir dans Apocalypse 21, le verset 8. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit les lâches, les abominables, les incrédules. Est-ce que ce sont des gens d'aujourd'hui qui n'ont jamais eu l'opportunité de comprendre les voies de Dieu? Non! Ça va être des gens qui vont rester lâches, qui vont rester incrédules, qui vont rester abominables, malgré la connaissance qu'ils vont avoir eue. En toute connaissance de cause, ils vont décider de rejeter ces choses-là. Et ils vont être détruits dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. C'est là que Christ va détruire les gens, une fois pour toutes. Je n'ai pas le temps de m'y rendre, mais vous allez voir Apocalypse 20, verset 6. Où est-ce qu'il parle des gens de la première résurrection? Ils sont esprits à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas renié Christ. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont travaillé. Ils ont avancé. Ils ont persisté jusqu'à la fin. Et ils vont être des fils de Dieu. Et à ce moment-là, ils ne pourront pas mourir de la seconde mort. La mort n'aura plus de pouvoir sur eux. Et la preuve de ça, allez voir dans Apocalypse 2, versets 8 à 11, où on a une ère d'une église qui est dit, « Si vous tenez bon jusqu'à la fin, en même en passant au travers des tribulations, vous allez vous qualifier pour être de la première résurrection, et donc la seconde mort ne s'applique pas. Vous ne serez pas dans la troisième. » Encore une fois, Apocalypse 2, versets 8 à 11, parle-t-il des trois premières catégories de Matthieu 13? Absolument pas. Ce ne sont pas des gens qui sont le long du chemin. Ce ne sont pas des gens qui sont parmi les pierres et ce ne sont pas des gens qui sont parmi les épines. Ce sont des gens qui ont de la bonne terre, qui ont produit du fruit, qui ont changé, qui ont persisté, qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et j'espère que c'est très clair, frères et sœurs. Maintenant, pour terminer, j'aimerais juste prendre quelques exemples et amener la nuance que je veux apporter. Regardez les fils d'Aaron. Nombre, chapitre 3. Les fils d'Aaron étaient sacrificateurs. Nombre 3. Les fils d'Aaron connaissaient qui était Dieu, savaient qui il était, savaient ce qu'ils avaient à faire. Il leur avait été dit de faire les choses d'une certaine manière. Et regardez, Nombre 3, versets 1 à 4. C'est marqué, voici la postérité d'Aaron et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, et Abihu, Aléazar et Itamar. Verset 3. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction des sacrificateurs. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu donné à ce moment-là. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils étaient en connaissance de cause. Et qu'ils furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Et Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ils vont mourir sur le champ. Ils ont été consacrés, ils avaient l'Esprit de Dieu, mais ils n'ont pas obéi. Vous savez, la loi de Dieu pour la nation d'Israël était toute simple. Le péché devait être éliminé. Pourquoi? Parce que la nation devait être un exemple. La nation devait être la nation dont Dieu était le roi. Dieu était sans péché. Donc la loi était définitivement la même. Et les sacrificateurs et leurs familles avaient été choisis par Dieu pour le représenter lui et pour représenter le peuple face à Dieu. Ils devaient montrer l'exemple. Et si Dieu faisait mourir une personne, dans ce cas ici, les deux fils d'Aaron, c'était pour un exemple. Mais les gens d'Israël comme tels, les gens qui sont morts par les plaies, les gens qui sont morts par les différentes choses qui ont été données, ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit. Et Israël va revenir à la deuxième résurrection. Mais la question se pose, par contre, pour Abihu et Nadab. Et c'est là que nous devons relaxer la pédale. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui va décider qu'est-ce qu'il va faire avec Abihu et Nadab. On ne le sait pas. On doit se poser la même question. Salomon. Salomon a reçu l'Esprit de Dieu, non? Absolument. Il était le roi de Dieu. Il a reçu l'Esprit du Saint. À la fin de sa vie, il s'est détourné à cause de ses 1000 épouses et femmes et 700 femmes, les 300 concubines. Mais on doit se poser la question. Salomon avait l'Esprit de Dieu, il savait la loi de Dieu. Va-t-il revenir à la première ou il va directement à la troisième? La question est bonne. Mais logiquement, Salomon devrait être dans la première. S'il s'est repenti, la Bible ne le dit pas. Donc, c'est là que l'on doit revenir et dire, OK, on n'est pas les juges. C'est pas nous qui va prendre la décision. Nous pourrions regarder bien d'autres personnes, mais on doit s'arrêter ici. Parce qu'évidemment, tous ceux et celles qui sont dans l'Église vont immédiatement penser à tous ceux que l'on a connus dans le passé. Mais c'est Dieu qui juge. Ces gens qui nous ont quittés, c'est Dieu qui juge. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ont été baptisés juste pour être baptisés, parce qu'il y avait une jolie jeune fille ou un joli jeune homme et qu'ils voulaient les marier. Donc, pour être capable de les fréquenter, il fallait qu'ils soient baptisés. Ont-ils reçu le Saint-Esprit? C'est Dieu qui donne, mais c'est Dieu qui juge. Et c'est là qu'on doit faire attention. Dieu va peut-être pas donner l'Esprit Saint à ces gens-là. Peut-être que ces gens-là ne se sont jamais repentis. Peut-être que ces gens-là n'ont jamais été convertis. Ils font partie des gens qui étaient parmi les épines. Mais en secret, qui sait? On ne le sait pas. Donc, on doit juste faire attention. Mais la Bible est très claire. Et nous savons que plusieurs ont été baptisés pour de fausses raisons, de faux motifs. Donc, on doit regarder ces choses-là. Donc, les trois premières catégories vont avoir leur opportunité à la deuxième résurrection. Mais pour ceux de la quatrième catégorie, ils ont leur opportunité maintenant, dans leur vie. Et nous avons notre opportunité maintenant. Et nous n'avons qu'une opportunité. Il n'y a qu'un appel. Si nous refusons, il ne reste plus que le feu de la Géhenne. Dernier verset, reportons-nous à Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, le verset 13. Et c'est là qu'on doit, encore une fois, réaliser qu'est-ce que nous devons faire. Hébreux 4, verset 13. « Nulle créature n'est cachée devant lui, devant Dieu, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » L'avertissement est sérieux. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? C'est « Vous êtes responsables de vos souliers, de votre vie. » N'essayez pas de porter des jugements sur « Ah, cette personne-là a quitté l'Église, donc elle s'en va. » Ce n'est pas votre responsabilité. Peu importe ce que Dieu décide, c'est Dieu qui décidera. Nous devons rendre compte de nos actions, de notre vie, de notre opportunité. Qu'est-ce que nous faisons maintenant avec nous, la bonne terre? Et de produire les fruits au maximum que nous sommes capables de produire. Parce que l'on veut se qualifier pour la première résurrection. Notre opportunité est maintenant. Et l'on ne veut pas la troisième. On ne veut pas le baptême de feu. Et nous voyons définitivement, frères et sœurs, que nous avons un Dieu qui est miséricordieux, qui a de la miséricorde pour chacun d'entre nous, pour tous les êtres humains, et qui est juste en tout point.